Je cherche à dire quelque chose qui est inhabituel, mais j'en trouve pas. Mais Joyce et moi sommes très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui, comme toujours. Je sais, c'est une formule consacrée, mais en l'occurrence, c'est vrai. Donc, nous gardons un excellent souvenir de notre week-end avec vous à LU, donc à la porte ouverte, donc au mois de septembre. Et qu'est-ce que ça m'a fait plaisir en arrivant ici de voir la cabane derrière, reconstruite, donc comme nous avons vu faire. Ça nous a drôlement impressionnés. Hein. Donc, ce travail ensemble, de travail d'équipe pour assembler cette merveilleuse construction. On ne l'a pas oublié. Et ça a fait plaisir de le revoir ici dans le jardin de l'église. Donc, je me demandais ce que le Seigneur voudrait que j'apporte aujourd'hui. Il m'a mis dans mon cœur un texte que je lirai dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais simplement commencer par rappelant à certains et sans doute à la plupart, disant l'histoire d'un film. Excusez-moi, c'est un peu profane, mais je vais parler d'abord d'un film qui est un très bon film d'ailleurs, qui s'appelle Joyce. C'est le film préféré de Joyce. Et ça s'appelle, c'est un vieux film. Hein? Donc, mais non, pas qu'on soit vieux, elle a connu ça donc des années après, hein, n'est-ce pas? Bon, oups. Ça s'appelle The African Queen, ou en français, la reine africaine. Il ne s'agit pas d'une reine, mais d'un bateau. Et dans ce film, Catherine Hepburn, actrice renommée, et Humphrey Bogart, également renommé, alors, sont en Afrique. L'histoire se passe pendant la guerre de 1914. Les Allemands prennent position de la région, aidés par la présence d'un navire de guerre qui patrouille le lac Tanganyika en Afrique centrale. Mais Hepburn, missionnaire dans ce coin, dont la propriété était détruite par les soldats allemands, a une idée folle. Descendre le fleuve dans le vieux bateau de Bogart, la reine africaine, donc c'est le nom de ce bateau, pour détruire ce navire. Ben, c'est une idée folle parce que c'est un voyage extrêmement périlleux, voire impossible, avec de nombreux dangers. Et pourtant, ils ont tenté le voyage. Et ils auraient pu réussir. Mais presque arrivés à destination, là où le fleuve commence à... Il n'y a plus de torrents comme ça, il n'y a plus d'eau trouble, etc. Ils arrivent presque vers le lac. Ils ne savent pas à quelle distance est le lac, mais ils sont sur le plat. Non seulement cela, mais ils sont embourbés dans les marécages qui sont dans la région du lac. Ils n'avancent plus. Bogart descend dans dans la boue. Avec une corde, il essaie de tirer. Il passe des heures à vouloir tirer le bateau. Et puis, ça n'avance plus. Et exténué, tous les deux, ils s'écroulent sur le pont du bateau et ils s'endorment. À ce moment-là, c'est un de ces, comment dirais-je, une de ces prises de caméra dans le cinéma qu'on n'oublie pas. La caméra montre Hepburn et Bogart exténués sur le pont. Et puis, la caméra recule. On les voit dans les marécages, parmi les roseaux qui les empêchent de voir plus loin. Et en reculant, nous constatons qu'ils sont tout près du lac, à peu près à une centaine de mètres du lac. Ils sont presque là, mais ils n'avancent plus. C'est l'impasse, l'impasse totale. Mais la caméra monte, va jusqu'aux sources du fleuve, et là, il y a un orage incroyable. De l'eau qui tombe en torrent tout en haut de ce fleuve. Et pendant la nuit, cette eau gonfle le fleuve et descend, descend à travers tous les dangers qu'ils ont connus, à travers cela, et arrive jusqu'au bateau, soulève le bateau et l'amène sur le lac. Et quand les deux se réveillent sur le pont, ils ont atteint leur premier objectif, c'est-à-dire d'atteindre le lac. Bon, de reste, je vous fais grâce du reste, mais si vous avez la possibilité de louer le film, je pense que là, vous ne serez pas déçus. Voilà, dans l'impasse, mais par miracle, ils arrivent à destination. Je crois que tous, à un moment donné, dans notre vie, nous avons connu des impasses où tout semble bloqué. On n'avance plus, on est fatigué et on perd l'espoir. Et le fait d'être chrétien engagé ne veut pas dire que nous sommes exempts de ces expériences. Et notre Église non plus. J'ai connu de tels moments dans ma vie personnelle ainsi que dans la vie de mon Église. Et ce sont des expériences pénibles que moi, je n'aurais jamais choisies. Le Seigneur les a choisies. Parfois, dans mes années de jeune chrétien, j'ai même tenté de penser que le Seigneur avait un côté un peu sadique. Quelle horreur. Pas du tout. Non. Je ne savais pas, mais ces expériences étaient pour mon bien. Je ne suis pas un homme très patient. Vous qui me connaissez bien, s'en sont rendus compte sans doute. Et je veux que ça avance. J'aime pas être bloqué. Je veux que ça aille de l'avant. Et parfois, je suis embourbé dans les marécages, je dirais, de la volonté de Dieu. Et j'ai l'impression de ne pas avancer. Mais curieusement, quand on est dans cette situation, Dieu agit. Et sans qu'on s'en rende compte, on est en train d'avancer avec lui. Je me rends compte avec le recul que les impasses que j'ai tant détestées dans la vie, dans mon impatience, ont été une grâce de Dieu par lesquels il m'a encouragé et a fortifié ma foi. Voici donc le thème de mon message ce matin, grandir spirituellement dans les impasses de Dieu. Et je mets l'accent sur le mot « de Dieu » parce qu'il y a des impasses qui ne sont pas de Dieu, des impasses dans lesquelles nous nous mettons parce que nous nous éloignons de la volonté de Dieu. Je ne dis pas que nous n'apprenons pas par ces impasses, mais mieux vaut apprendre des impasses que Dieu permet d'arriver dans notre vie. Et pourquoi? Parce que ce sont autant d'occasions pour nous de voir éclater la gloire et la puissance de notre Dieu et pour nous permettre de grandir dans le Seigneur. Mais, excusez-moi, il y a souvent un mais, hein, à condition d'avoir la bonne réaction dans les impasses, face à ces impasses. Ce matin, je voudrais regarder une situation bien connue dans l'histoire d'Israël pour mieux comprendre comment réagir devant les impasses que Dieu fait venir ou permet d'arriver dans notre vie. Et je lis dans Exode chapitre 14, versets 5 à 18. l'un des passages qui vraiment nous parle d'une impasse et une impasse de taille. Exode 14, à partir du verset 5, les enfants d'Israël sont, après avoir célébré la Pâque en Égypte, sont sortis victorieusement de l'Égypte et vont vers le pays promis. Mais on annonça au verset 5 au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les sentiments de Pharaon et celui de ses serviteurs à l'égard du peuple furent changés. Là, ils ont chassé du pays, mais maintenant ils changent d'avis. Bon. Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël, dont nous n'aurons plus les services? Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, surtout s'il y avait des équipages de 3 hommes. Beaucoup de monde, n'est-ce pas? L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon. Pourquoi? Parce que Pharaon était déjà sur un chemin donc dangereux et il persistait dans ce chemin et Dieu l'a endurci pour qu'il continue dans ce chemin. Et le Pharaon poursuivit les Israélites. Les Israélites étaient sortis librement. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent alors qu'ils campaient près de la mer vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Tsephon. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as amenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent derrière eux. Je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel quand j'aurai été glorifié par le moyen du Pharaon, de ses chars et de ses cavaliers. » J'arrête la lecture avec ce verset. Et je vous invite à prier de nouveau. Père Céleste, nous te bénissons parce que ce passage est vraiment un texte qui nous apprend beaucoup de choses sur notre vie avec toi, sur notre relation avec toi. Je prie, Seigneur, afin que tu m'aides à vraiment interpréter cette parole comme tu le désires pour chacun d'entre nous. Tu sais combien ce passage m'a béni dans le passé. J'ai besoin encore aujourd'hui que tu me bénisses par le regard de ce passage. Et pour ceux qui sont ici ce matin, chacun dans une situation différente, chacun connu de toi, et je sais que par le miracle de ton esprit, tu peux appliquer cette parole à chacun selon son besoin. C'est ma prière ce matin. Que tu te glorifies ce matin, comme tu l'as fait à travers les Israélites à cette époque de Moïse. Je le prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, tout d'abord, je vois dans ce passage 3 réactions qui ne plaisent pas au Seigneur. 3 réactions qui font reculer notre foi, je peux le dire, et qui ne plaisent pas à Dieu. D'abord, au verset 10, nous lisons que les Israélites furent remplis de crainte. Et c'est la première réaction qui ne plaît pas trop au Seigneur. Ce n'est pas la plus grave, mais la crainte. Soyons honnêtes, soyons charitables. La crainte est une réaction humaine normale. Supposons, transportons-nous, si c'est possible, dans la situation des Israélites à ce moment-là, avec l'armée de Pharaon qui les poursuit. Auriez-vous, vous, eu crainte? Je n'ai pas honte de dire que moi, j'aurais eu peur. C'est une réaction normale. L'appréhension, l'inconnu, le manque de solutions évidentes, tout cela, ça fait peur. Pour les Israélites, il n'y a pas d'issue, c'est l'impasse. Et la crainte s'installe dans leur cœur. Et au fait, j'ai l'impression que Moïse ne reproche pas au peuple la crainte. Ce n'est pas ça le gros problème ici. Ce que Moïse le reproche, c'est une réaction qui trahit une foi fléchissante, qui trahit un manque de confiance en Dieu. Parce que là, ils donnent l'impression d'avoir oublié que Dieu est dans la situation. Ils avaient déjà été témoins de tous les miracles de Dieu en Égypte. Et je suppose que nous, nous dirions, mais on n'aurait pas réagi comme les Israélites, parce que si nous avions vu tous ces miracles, bon, on aurait eu confiance en Dieu. Je ne suis pas si certain. Combien de fois avons-nous vu l'action du Seigneur et tout ce dont il est capable? Et encore, notre foi n'est pas toujours au point. Lorsque la crainte s'empare de nous, nous pouvons facilement oublier comment est Dieu. Nous aurions tendance même à penser inconsciemment que Dieu est limité comme nous. Nous, on n'a pas de solution, Dieu non plus. Donc, ça commence à être un peu grave, hein? On doute de la vérité d'Ésaïe 41:10, c'est un de mes versets préférés. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Nous oublions cela. Et Hébreux 11:6 nous dit qu'un manque de foi ne plaît pas au Seigneur. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous voyons le résultat de la crainte dans l'histoire de Pierre marchant sur les eaux. Au début, Pierre était confiant. Il est sorti de la barque. Il va vers le Seigneur. Mais quand est-ce que Pierre a commencé à avoir peur? À quel moment? Savez-vous, rappelez-vous? Il a vu les vagues. Ça, c'est une chose. Mais il a détourné ses yeux du Seigneur. Voilà, c'était les vagues qui le préoccupaient. Et il a arrêté de regarder le Seigneur. Et c'est là où il commençait à avoir peur et il commençait à s'enfoncer. Alors, soyons pas trop durs avec Pierre. Non. En plus, la crainte est une réaction qui peut nous empêcher de voir et comprendre la réalité de Dieu, la réalité que Dieu veut nous montrer. La crainte nous rend aveugles. N'est-ce pas? C'est une émotion qui nous envahit et qui peut nous empêcher de voir la réalité de la situation. La crainte crée une distorsion de la réalité de la situation. Et parfois, elle paralyse. Est-ce que vous avez jamais fait cette expérience? Moi, si. Nos yeux ne sont plus sur le Seigneur. Nous voyons les situations sans le Seigneur et nous risquons de réagir en faisant une bêtise. La crainte peut nous pousser à faire des bêtises quand la crainte nous fait enlever nos yeux du Seigneur. Là, je pense à l'assistant d'Élisée, vous savez, dans l'Ancien Testament. Élisée et sa servante, sa jeune servante, étaient dans une ville fortifiée et ils étaient entourés par l'armée d'Israël. Et le jeune serviteur a dit, « Oh là là, oh, mais dis donc là, là c'est cuit pour nous. Hein. » Mais c'est pas, si par la Bible ne dit pas « c'est cuit », mais enfin, ça nous aide à comprendre ce que c'est. « C'est fini pour nous !» Et qu'est-ce qu'Élisée a dit? « Seigneur, ouvre les yeux de ce jeune serviteur. » Et Dieu lui a ouvert les yeux. Et il a vu autour de cette armée israélienne l'armée de Dieu qui était là pour les protéger. Et le Seigneur l'a fait. C'est curieux. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais enfin, je vous le recommande dans 2 Rois, je pense. Donc, c'est très intéressant. Mais pire, la crainte, c'est une chose. Mais la crainte est une réaction qui produit 2 autres réactions encore plus néfastes qui ne plaisent pas au Seigneur. La deuxième réaction, c'est que la crainte peut provoquer la plainte ou la critique ou la grogne. Ah, je sais que dans l'église de Villefranche-sur-Saône, il n'y a jamais de plainte, il n'y a jamais de critique, il n'y a jamais de grogne. On est des gens sanctifiés, on est au-delà de cela. Si c'est le cas, j'aimerais vous parler après pour que vous m'aidiez. Versets 11 et 12. Quelle parole dans la bouche des Israélites. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Là aussi, la plainte et la critique sont des réactions humaines normales, disons, ou courante, peut-être est plutôt le mot qui convient, mais elles sont moins acceptables et plus dangereuses que la crainte. Elles sont moins acceptables parce que souvent la critique de ce genre a tendance à nous faire douter de la sagesse de Dieu et du plan de Dieu pour nous. Et c'est bien le cas ici. Plus lorsqu'on râle, on perd tout sens d'objectivité. On n'est plus objectif. En l'occurrence, les Israélites déraisonnaient au point de croire qu'ils avaient été mieux en Égypte. Vous vous rendez compte? Ils avaient été esclaves pendant des siècles. Bon, je ne sais pas combien de temps, ils sont restés 400 ans, mais une bonne partie de ce temps, ils étaient esclaves. Et ils se croyaient mieux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de la nourriture. Bon, enfin, une des choses qu'on a appréciées en arrivant en France, et ça fait 53 ans maintenant, bon l'accent est toujours là, mais ne tenez pas compte. Enfin, mais c'est la cuisine française. Oh là là, ça ne donne pas envie de rentrer aux États-Unis. Hein. Les hamburgers, bon, maintenant on a McDo, on peut les avoir, bon ben voilà. Bon, mais je ne les recommande pas, j'ai rien contre McDo, hein, mais enfin, excusez-moi, ce n'était pas dans mes notes. Ils croyaient qu'ils avaient été mieux dans l'esclavage en Égypte parce qu'ils avaient de quoi manger. Alors, on pense des bêtises, on fait des bêtises quand on est dans une attitude de crainte, de plainte, de critique, de grogne. Et la grogne qui est la critique non constructive, il y a une critique constructive. Et ça, c'est permis. Et en général, la critique constructive dans une église se fait dans l'amour, pour ne pas blesser. Mais il y a une critique non constructive qui blesse et qui est mauvaise. Donc, la grogne, la critique non constructive, peut créer d'énormes problèmes dans notre relation avec Dieu, mais aussi avec nos frères et sœurs en Christ. La grogne est rarement la bonne réaction. On peut justifier parfois la protestation. Hier, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y avait des millions de jeunes aux États-Unis dans la rue pour protester parce que 17 de leurs amis en Floride avaient été tués dans un massacre dans un lycée. Et ces jeunes ont dit, ça suffit. Alors que nos hommes politiques prennent des mesures pour limiter la vente des armes et limiter ceux qui ont le droit d'acheter des armes. Ben, c'est terrible, ben, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on peut acheter des fusils d'assaut, on peut acheter des bazookas. Voilà, les gens disent, oui, on veut aller à la chasse. Vous vous rendez compte, vous allez à la chasse, vous avez une biche devant vous, vous tirez 30 balles dans l'espace de 5 secondes, il n'y a plus beaucoup qui reste de cette pauvre bête. Mais c'est insensé. Et les jeunes ont dit, les jeunes, ils ont plus sagesse que leurs aînés qui sont au congrès, excusez-moi de le dire, enfin. Mais comme vous voyez, je ne suis pas membre de l'Association nationale du fusil, comme beaucoup aux États-Unis. Bon, voilà. Mais là, la grogne est rarement la bonne solution. Protestation pourrait l'être, mais la bonne protestation. Et puis la plainte et la critique sont souvent une indication d'un découragement. On avait tant espéré trouver la résolution de nos problèmes. En sortant d'Égypte, on a dit, voilà, on est libre maintenant, on est libre. Et puis, arrivé devant la mer Rouge, l'armée de Pharaon derrière. Ah, on ne s'attendait pas à ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Moïse? Tu nous as emmenés ici pour mourir dans le désert. Ils étaient complètement découragés. Mais hélas, la plainte et les critiques sont souvent une indication de découragement. On avait espéré la résolution du problème, mais hélas, nous trouvons dans une impasse que nous croyons incontournable. Dieu ne nous reproche pas le découragement. Ça peut nous arriver. Il nous reproche de persister dans la voie du découragement. Persister, parce que lui, il veut nous montrer autre chose. Mais il y a une troisième réaction engendrée par la crainte, qui est engendrée par la crainte au fait, et cette réaction est la tentation de vouloir laisser tomber Dieu et son plan pour nous. Au verset 12, ils disent même, retournons en Égypte. Le plan de Dieu, c'était qu'ils aillent dans le pays promis. Et là, il veut retourner en Égypte. Alors la situation commence à devenir vraiment grave, les Israélites frôlent l'idolâtrie. Le peuple préférait l'esclavage en Égypte plutôt que de suivre Dieu. Laisse-nous servir les Égyptiens. Mais non, vous êtes là pour servir Dieu. Vous allez dans le pays promis et vous allez servir Dieu, plus de service aux Égyptiens. Le peuple préférait l'esclavage en Égypte plutôt que de suivre Dieu. Quelle stupidité! C'est facile pour nous de reconnaître cela en lisant l'Exode. Mais si nous examinons notre propre vie, est-ce qu'il y a des moments où nous, quand même, nous pensons et nous disons même des stupidités? Parce qu'on oublie Dieu et ce qu'il est et ce qu'il veut faire pour nous. La même tentation arrive chez ceux qui acceptent Jésus dans leur vie, en pensant que Dieu va ainsi mettre fin à tous leurs problèmes. Et ils ont mal compris. Je connais des personnes qui disent, « Moi, j'accepte Jésus, comme ça, j'aurai plus de problèmes. » Mais j'ai une mauvaise nouvelle suivie d'une bonne nouvelle. Si vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur, vous n'allez pas vous échapper à des problèmes et à des difficultés. Vous en aurez peut-être même davantage. Mais ici, j'ai un « mais » dans le bon sens. Un « mais » incontournable. Quand on est chrétien, Dieu est avec nous dans nos problèmes et nos difficultés. Personne n'a dit « amen ». Dieu est avec nous et ça fait toute la différence. On n'a pas à lutter tout seul. Et puis, si on fait partie d'une église, ce que j'espère est le cas pour nous tous aujourd'hui, on est entouré de frères et sœurs qui pourront nous aider et nous soutenir et nous permettre d'aller de l'avant avec Dieu. Non. Toutes ces réactions, qui sont compréhensibles jusqu'à un certain point, nuisent pourtant à notre croissance spirituelle et ne nous permettent pas d'avancer avec le Seigneur. Mais les impasses de Dieu sont en quelque sorte un cadeau pour nous aider à grandir en lui. Et lorsque nous restons bloqués par les aspects négatifs de l'impasse, nous passons à côté de l'enseignement et de la bénédiction que Dieu voudrait nous apporter. Mais heureusement, ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce qu'il y a aussi dans cette histoire trois réactions qui plaisent à Dieu. D'abord, c'est la confiance au lieu de la crainte. Au verset 13, « Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Qui est ce Moïse? Ce Moïse est celui qui, quelques mois auparavant, à peine, peut-être quelques semaines auparavant, avait rencontré Dieu dans le buisson ardent, avait donné à Dieu 5 raisons pour lesquelles il ne devrait pas aller délivrer le peuple. Moïse a appris quelque chose en voyant l'action de Dieu. Moïse a drôlement grandi pendant cette période relativement brève entre le buisson ardent et la situation face à la mer Rouge. Et maintenant, il dit, Dieu va nous délivrer. C'est un homme complètement changé. Moi, je trouve que c'est beau. Moi, j'ai mis des années pour apprendre certaines choses. Des années. Et j'en ai encore à apprendre. Voilà, Moïse. Alors, je ne dis pas chapeau à Moïse, mais je dis chapeau à Dieu, si je peux le dire comme ça. La réaction, c'est la confiance au lieu de la crainte. Il fallait cesser d'être consumé par la crainte pour voir Dieu agir. Et ce n'est pas facile. C'est Dieu qui allait sauver. Voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. C'est Dieu qui allait combattre pour eux. Dieu combattra pour vous. Et vous ne verrez plus ces Égyptiens. Et c'est en vivant ce genre de situation que nous expérimentons la fidélité de Dieu. Une fidélité qui est basée sur la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas des idées en l'air comme ça, c'est dans sa parole, maintes fois dans sa parole, la fidélité de Dieu. Et cette expérience nous aidera à lui faire confiance dans d'autres situations difficiles ou bloquées que nous pourrons vivre dans l'avenir. Joyce et moi avons vécu des expériences dans des églises, notamment pour chercher une propriété, et on a vu de nombreuses propriétés passer sous le nez. Et je me souviens, bon, je ne dis pas, je ne me fais pas de compliments, mais je me souviens d'avoir soulevé mon poing contre Dieu et de dire, « Dieu, tu n'as pas le droit de faire ça, nous allons signer une promesse de vente. » Et la dame qui devait vendre a dit, « J'augmente le prix de 100 000 francs. » À l'époque, c'était des francs. Et on a perdu l'affaire. Et j'ai dit à Dieu, tu n'as pas le droit. Vous m'en êtes con. J'osais dire à Dieu ce qu'il a le droit de faire et pas faire. Alors pendant 3 jours, j'étais en colère. Et après 3 jours, Dieu a dit, ben, écoute David, calme-toi, ce n'est pas la fin de l'histoire. Et vous savez quoi? Le Seigneur avait quelque chose pour nous, mais c'était mieux. C'est ça le Seigneur. C'est ça le Seigneur dans l'impasse. Quand tout est bloqué, quand on râle contre l'Éternel, ce qu'on pourrait faire, je ne vous recommande pas de le faire, mais ça pourrait arriver. Dieu a quelque chose de meilleur pour nous lorsqu'on lui fait confiance. Combien de fois avons-nous vu ça dans notre ministère? C'est dans ces moments qu'on apprend. Hein? Ce n'est pas quand tout va bien qu'on apprend. C'est quand ça ne va pas. Deuxième réaction qui plaît à Dieu, c'est un esprit calme et tranquille, le silence devant Dieu. Et Moïse a dit, « Soyez tranquilles, restez en place. » Pour l'instant, je dis, restez en place. Parfois, on bouge trop, c'est mon problème, j'ai toujours eu la bougeotte depuis haut comme trois pommes. Bon, difficile de rester en place. Et mes moniteurs de l'école dimanche, « David, reste en place !» Terrible. Qu'est-ce que je les ai fait voir? Bon, enfin, fallait rester en place. On bouge trop. Et ne pas bouger est souvent difficile, surtout pour les activistes. Il y a un moment pour l'activité, mais il faut savoir quand on doit tout simplement laisser agir le Seigneur et attendre sa réponse. Seulement, trop souvent, devant l'impasse, nous perdons notre confiance en Dieu et nous cherchons notre solution dans un activisme plus paniqué plutôt que dans le Seigneur et notre situation devient pire parce que on est trop pressé. C'est une des choses, c'est une lutte que j'ai eue pendant longtemps avec le Seigneur. Seigneur, pourquoi est-ce que tu es si lent à agir? Je sais qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Et quand tu me dis demain, ça pourrait être 1000 ans, hein? Bon, mais non. Et pourtant, c'est là où j'ai compris quelque chose de Dieu. Alors, à l'âge de 80 ans, maintenant, je pense que j'ai arrêté de ce genre de discussion avec le Seigneur. Enfin, j'ai arrêté. Alors, et puis, Ésaïe dit de nouveau, je vois, j'aime Ésaïe aussi, hein, bon, 30-50, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme et la confiance, c'est là votre force. Et puis, une troisième réaction qui plaît à Dieu, c'est d'entreprendre l'action que lui, Dieu, nous indique. Au verset 15 et 16, « L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu envers moi ? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. » Dieu allait agir. Dieu avait promis d'agir, mais les Israélites avaient une responsabilité aussi. Et maintenant, Moïse a dit, reste tranquille et vous verrez ce que le Seigneur a dit. Mais là, le Seigneur dit, maintenant, c'est le moment de se mettre en marche, aller de l'avant. Comment se mettre en marche? Pour aller où? Les falaises de chaque côté? L'armée égyptienne derrière, la mer Rouge devant. Où est-ce qu'on va se mettre en marche? Pour faire quoi? Hein, Dieu a mis sa solution. Moïse étend ton bâton, étend ta main. Et les Israélites vont traverser à pied sec. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parfois, il faut avancer pour que le Seigneur ouvre la voie devant nous. Mais on avance parce que le Seigneur nous dit d'avancer, pas parce que nous avons envie d'avancer. Quand le Seigneur dit « avance », nous avançons et il ouvre le chemin. Le Seigneur nous dira quand et comment il faut avancer. On ne peut pas diriger ou orienter un bateau qui est amarré. OK, si vous êtes simplement figé, donc un vieux missionnaire m'a dit ça une fois parce que je voulais faire quelque chose dans la mission et je lui ai dit ce que je pensais faire. Il a dit, mais avancez dans cette direction et le Seigneur te dirigera. J'avais 15, 16 ans. Et puis, il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit, il est plus facile pour le capitaine d'un navire d'orienter un bateau qui est en mouvement qu'un bateau qui est amarré au quai. Et parfois, nous sommes un peu trop amarrés au quai et le Seigneur ne peut pas nous orienter. Allons de l'avant tout en lui demandant de nous orienter. Si je devais faire une graphique de ma vie, ce n'est pas de A à Z. Moi, je ne suis pas encore à Z. Hein? Bon. Heureusement. J'espère qu'il y a encore un peu de temps. Donc. Bon. Mais ce n'est pas une ligne droite de A à Z. Pour moi, pour Dieu, c'est une ligne droite. Mais pour moi, ça ressemble à ça. Tout sauf une ligne droite. Pardon. Oui, Joyce. Bon. Bon, c'est vrai, je gesticule un peu, oui. Bon. Il y a un moment pour agir. Et quand le Seigneur dit d'avancer, il faut avancer avec lui. Notre action doit être le résultat d'une conviction donnée par le Seigneur. Une foi qui est fondée sur Dieu et sa parole. Ses promesses. Mais pour connaître les promesses de Dieu, il faut connaître sa parole. On ne peut pas connaître la direction de Dieu sans connaître le Dieu de la parole. C'est pour ça qu'il faut passer du temps là-dedans. Alors, en conclusion, quel a été le résultat ou l'issue pour Moïse et les Israélites? Nous lisons au verset 18 que Dieu a agi pour la gloire de son nom. Et vous savez, c'est toujours le but de Dieu de se glorifier. C'est toujours le but de Dieu dans notre vie, c'est que notre vie puisse glorifier Dieu. Et c'est le but principal du chrétien. Le but principal du chrétien, ce n'est pas amener des âmes au Seigneur, ce n'est pas servir le Seigneur au sein de son Église, ce n'est pas ceci ou cela ou toute autre chose que nous pourrions suggérer, c'est de glorifier Dieu, Maria. Il y a mille façons de glorifier Dieu. Mais ça, c'est le mot de la fin, glorifier Dieu. Donc, lorsque nous sommes devant l'une des impasses de Dieu, il faut se rappeler trois choses essentielles. D'abord, Dieu cherche, à travers cette impasse, à nous faire voir sa gloire et la solution que lui va donner. Deuxièmement, Dieu a souvent une solution dans cette impasse à laquelle nous n'aurions jamais pensé. Une solution qui, en plus, sera la meilleure pour nous. Dieu est le Créateur. Et croyez-moi, il a des solutions très créatives. On peut lui faire confiance car il connaît la solution, l'issue qu'il a préparée pour nous. Et Dieu a une solution. Il a une solution à votre besoin d'un pasteur. Et nous prions pour cela avec vous. Il vous révélera ça à son moment et pas avant. Mais pour connaître la réponse de Dieu, il faut rester dans sa présence. Et finalement, Dieu cherche en nous la bonne réaction, celle qui va nous permettre de grandir en lui, la confiance au lieu de la crainte et du découragement, un esprit calme et tranquille, le silence devant lui, pas un activisme paniqué. Et ensuite, il nous demande d'entreprendre l'action que lui va nous indiquer. Ma prière pour chacun de nous ce matin, pas simplement vous, mais moi et Joyce, ainsi que pour toute l'Église de Villefranche-sur-Saône, et que Dieu nous aide à apprendre à utiliser ces impasses comme autant d'occasions bénies pour grandir en lui, pour augmenter notre foi, pour avancer sur le chemin de sa volonté et de sa bénédiction. Que Dieu vous fortifie ainsi et par conséquent toute l'Église de Villefranche-sur-Saône. Amen.